Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Le pouvoir au pied du mur face aux médecins hospitaliers qui réclament de nouvelles mesures et un nouveau coup de frein pour ralentir la vague de malades en réanimation. Débat et hésitation au plus haut sommet de l'État. Bruno Le Maire explique à l'instant que le tri des malades dans les hôpitaux est une ligne rouge absolue. L'hôpital qui suit davantage de patients à domicile, 5000 d'entre eux sont oxygénés chez eux, ce qui permet de libérer des lits. Les fermetures de classes se multiplient depuis hier et le nouveau protocole qui prévoit de fermer dès la première contamination d'un élève. À suivre également le succès de la collecte des Restos du Cœur, le début du procès de l'homme qui avait jeté sa voiture contre une pizzeria en Seine-et-Marne il y a 3 ans et demi, un mort, une douzaine de blessés, et puis le sauvetage de la forêt de Chantilly menacée par le réchauffement et la sécheresse. Invité d'Europe Midi, le professeur de santé publique au CHU de Lille, Philippe Amouyel.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron à la télévision pour l'annonce d'un deuxième confinement le 28 octobre dernier.
Si nous ne donnons pas aujourd'hui un coup de frein brutal aux contaminations, les médecins devront alors choisir ici entre un patient atteint du Covid et une personne victime d'un accident de la route, là entre deux malades du Covid. Ce qui, compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, de ce qu'est la France, de ce que nous sommes, est inacceptable.
Inacceptable, le tri des malades, disait le président il y a 5 mois. Aujourd'hui, nous y sommes, avec près de 5000 patients en réanimation. Le pic de la deuxième vague, qui avait été atteint 15 jours après cette allocution, vient d'être dépassé. 362 malades du Covid sont décédés hier encore à l'hôpital. Et rien ne se passe au sommet de l'État. Pas de mesures supplémentaires de freinage. Jean-Rémy Baudeau, comment expliquer cet attentisme? Pourquoi ce qui était jugé contraire aux valeurs de la France semble aujourd'hui toléré?
Eh bien Patrick, ça paraît incompréhensible, mais la différence, elle tient en un mot, vaccin. C'est à cette branche que l'exécutif s'accroche actuellement. On vit des semaines difficiles, reconnaît-on à l'Élysée, mais la ligne tracée, les 10 millions de vaccinés mi-avril, les 30 millions à l'été, c'est sur le papier la réponse à l'épidémie. D'ici là, au sommet de l'État, eh bien, on tâtonne, on observe les courbes, on espère que les hôpitaux n'exploseront pas. Bruno Le Maire vient de le dire, le tri des malades, c'est la ligne rouge absolue. Sachez que les chiffres publiés ce soir seront observés avec précision, ils donneront la tendance et surtout la gravité de la situation après 2 semaines de restrictions, notamment en Île-de-France. On sait qu'Emmanuel Macron s'en servira pour prendre sa décision. Après, on connaît malheureusement trop bien le parcours politique, le conseil de défense Covid, demain, les possibles annonces dans les heures qui viennent. Les Français, ils sont comme beaucoup de monde au gouvernement. Ils attendent la décision du président.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1. Plus de 28 000 malades du Covid sont maintenant hospitalisés et quelques 5 000 sont surveillés à domicile. Ce sont des patients qui ont passé la phase inflammatoire aiguë, qui peuvent recevoir de l'oxygène dans leur propre lit. Victor Delande, c'est une solution qui va être développée pour désengorger les hôpitaux.
Oui, la piste est étudiée de très près par le gouvernement. Selon les professionnels de l'hospitalisation à domicile, ce sont 3 fois plus de patients qui pourraient être pris en charge chez eux. De son côté, la PHP a lancé ces derniers jours un nouveau service pour assurer le suivi à domicile de patients Covid encore sous oxygénation. La pratique est très encadrée. Il faut d'abord l'accord du patient, un lien bien sûr entre l'hôpital et le médecin de ville qui surveille le malade et une infirmière qui passe à son domicile pour surveiller ses constantes. C'est la plupart du temps pour des patients, vous l'avez dit, qui ont déjà été hospitalisés et qui ont passé la phase la plus dure de la maladie, comme l'explique Elisabeth Hubert, présidente de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile et ancienne ministre de la Santé.
La phase la plus aiguë est passée. Et là, nous sommes tout à fait mobilisables, mais aussi parce qu'il y aura le reste du traitement, les anticoagulants, les corticoïdes, voire les antibiotiques, ce qui permet à un autre malade de prendre sa place, ça soulage l'hôpital.
Et dans certains cas, ça peut aussi éviter de passer carrément par la case hôpital à certains patients qui pourraient faire des formes graves. Depuis octobre dernier, le docteur Nicolas Gandry pilote un projet avec l'hôpital d'Argenteuil et les résultats sont très encourageants.
On a pris 250 patients et 90% ont passé le cap et sont restés à la maison et on a pu même les sevrer en oxygène à domicile. Il y en a 10% qui ont été réhospitalisés. On a toujours vu l'aggravation venir.
Mais certains médecins refusent quand même d'hospitaliser à domicile des patients atteints de formes graves avec le Covid, disent-ils. Leur état peut se dégrader trop brutalement.
Et Victor Delande, l'école sous pression depuis l'entrée en vigueur du nouveau protocole sanitaire. Les fermetures de classes se multiplient. ainsi dans les Hauts-de-France, Lionel Gougelot.
Oui, c'est vrai Patrick, et cela quels que soient les niveaux, école, collège et lycée, où l'on voit de plus en plus fleurir ici ou là des affichettes signées de responsables d'établissement qui informent les parents d'élèves d'une fermeture de classe. C'est la conséquence mathématique effectivement de ce nouveau protocole plus strict. Une fermeture dès qu'un cas de Covid est décelé. 250 classes étaient fermées hier dans l'académie et cela risque encore de s'aggraver aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine compte tenu de la forte circulation du virus. Jean-Yves Guéant, le président de la FCPE du Nord, est plutôt fataliste. Il s'attend à une fermeture généralisée dans l'éducation nationale. D'ailleurs, il va jusqu'à se demander si cela n'est pas finalement une stratégie voulue par le gouvernement.
En passant un protocole de un cas, une fermeture, ça va multiplier les fermetures de classe. Et M. Macron va pouvoir dire, vous voyez, j'ai pas d'autre solution, donc on ferme les écoles. Et donc moi, pour mon compte personnel, c'est qu'on arrive à un point de non-retour. Nos enfants en paieront les pots cassés. Malheureusement, on a peur pour la scolarisation de nos enfants. Je peux vous dire que nos enfants vont être très, très perturbés.
Et de fait, selon ce responsable de parents d'élèves, beaucoup de familles ici dans la région se font à l'idée de refaire l'école à la maison avec tous les problèmes que cela pose pour l'organisation du quotidien, mais aussi les inquiétudes sur un nouveau décrochage scolaire.
Lionel Gougelot dans les Hauts-de-France. Du côté des entreprises, on pensait que le gouvernement ne pouvait pas imposer le télétravail, pas de contraintes possibles. Mais ce matin, invité d'Europe 1, la ministre Elisabeth Borne en a parlé comme d'une obligation qu'elle a justifiée ainsi.
C'est une obligation, il faut faire du télétravail dès que c'est possible. Il y a beaucoup d'interventions des services de mon ministère, notamment de l'inspection du travail, 26 000 interventions depuis le début de l'année. D'abord pour accompagner, pour conseiller les entreprises, mais aussi pour les contrôler et pour les sanctionner. Donc je le redis, c'est une obligation de recourir.
Qu'on comprenne bien, madame la ministre, c'est une obligation, mais ce n'est pas dans une ordonnance. Ce n'est pas écrit noir sur blanc et ça n'a pas un caractère obligatoire via une ordonnance aujourd'hui.
En fait, le Code du travail oblige l'employeur à protéger la santé de ses salariés. La traduction concrète, c'est ces règles qui sont dans le protocole sanitaire en entreprise qui demande à l'employeur, aux salariés, de faire, dès que c'est possible, du télétravail.
Elisabeth Borne, invitée de Sonia Mabrouk. L'Italie va imposer 5 jours d'isolement aux voyageurs venant de l'Union européenne avec obligation de test avant le départ, puis nouveau test à l'issue de la quarantaine, mesure déjà en vigueur pour les pays hors Union européenne. L'Italie vient de rouvrir ses écoles à Rome après 2 semaines de fermeture. L'Allemagne annonce aussi ce matin qu'elle va renforcer ses contrôles aux frontières terrestres, ce qui vaut évidemment pour la France.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant la suite, la bonne collecte des Restos du Cœur et le procès de l'homme qui avait projeté sa voiture contre une pizzeria en 2017.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Les Restos du Cœur ont récolté 7800 tonnes de nourriture en 3 jours lors de la campagne de début mars, un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier. Et malgré le contexte sanitaire, le président des Restos du Cœur, Patrice Douret.
Nous avons assisté à un fort élan de générosité, énormément de petits dons, des articles que l'on ne voyait pas habituellement, de petits gâteaux différents qui permettaient de faire un petit dessert, pas forcément le même que d'habitude. Et puis ce que l'on a vu beaucoup plus fréquemment qu'avant, c'est des personnes qui arrivaient au niveau de nos équipes bénévoles, elles disaient je sais pas quoi vous donner, finalement je donne tout, et qui laissaient le chariot. Les Restos du Cœur accueillent actuellement 900 000 personnes. Leur situation s'est fortement dégradée ces derniers mois, et il était important pour nous que cette collecte soit une réussite pour aujourd'hui, anticiper la suite et l'augmentation assez forte de la précarité dans les prochains mois avec, on espère très rapidement, la fin de cette crise sanitaire mais qui ne sera pas non plus la fin de la crise économique et sociale que l'on attend.
Le président des Restos avec Zoé Pallier, Karim Benzema sera jugé en octobre à Versailles dans l'affaire de la sextape de son ancien coéquipier Valbuena. L'attaquant du Real est poursuivi pour complicité de tentative de chantage, délit passible de 5 ans de prison. 1 an de prison ferme requis contre l'ex-PDG d'IKEA France, poursuivi pour avoir fait espionner ses salariés, et 2 millions d'euros d'amende pour l'entreprise, réquisitoire prononcé à l'instant devant le tribunal de Versailles. À Melun, aux assises de Seine-et-Marne, le début du procès d'un homme de 36 ans, David Patterson, qui avait projeté sa voiture sur la terrasse bondée d'une pizzeria près de la Ferté-sous-Jouarre en août 2017. Il avait tué une collégienne et blessé 12 de personnes, acte délibéré mais dont on ne connaît toujours pas le mobile. Ce matin, les parents de l'adolescente ont été pour la première fois confrontés à son assassin, Justin Morin.
Oui, l'accusé David Patterson, 36 ans, le crâne rasé, la voix chevrotante, a décliné son identité à la cour. La dernière fois qu'ils l'ont vu, il était au volant de sa BMW, le sourire aux lèvres, se souvient la mère de la victime. Il venait d'encastrer sa voiture dans la pizzeria où ils étaient en train de dîner en famille. La lecture des faits par le président, les souvenirs des pneus qui crissent, du choc et des cris sont douloureux pour les victimes présentes et leurs proches. Toutes et tous attendent des réponses de l'accusé. Pourquoi s'attaquer à des inconnus? Pourquoi un soir d'été où il savait pertinemment qu'il allait faire beaucoup de victimes à cette terrasse? David Patterson a annoncé qu'il comptait s'expliquer, il a reconnu les faits, mais il évoque des trous de mémoire qui l'empêchent de retracer précisément ce qu'il s'est passé. Il était dans un état de grande confusion mentale, selon les mots de son avocat. Dépression, paranoïa, haine de l'être humain. Ces déclarations ont évolué au cours de l'enquête. Aujourd'hui, l'accusé, emprisonné depuis les faits, suivi sur le plan psychiatrique. Il est stabilisé. Les parties civiles espèrent que l'amélioration de son état permettra de s'approcher au plus près de la vérité. Il risque la perpétuité.
Justin Morin aux assises de Melun pour Europe 1. Le mensuel Science et Vie, vidé de ses journalistes, d'émissions collectives ce matin, de ses rédacteurs scientifiques opposés aux méthodes du nouveau propriétaire de Science et Vie, Reworld Media. Chez Hachette Livre, l'un des principaux groupes d'édition français avec ses maisons Grasset, Fayard, Kalman-Lévy, etc. Le PDG, depuis 18 ans, Arnaud Nourry, est démis ses fonctions par son actionnaire, le groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1. La forêt de Chantilly, domaine de plus de 6000 hectares, est en grand danger, victime du réchauffement et de sécheresse à répétition. Une équipe de chercheurs de l'INRAE tente de comprendre et de combattre la mort des arbres. Reportage à Chantilly, Virginie Salmen.
Une quarantaine de chercheurs et plus d'une centaine d'habitants font ces jours-ci l'inventaire de la forêt. Ils collectent du bois, des plantes, des insectes ravageurs, prélèvent des échantillons de sol.
167 !
Ils mesurent les arbres et notent leur état de santé. Le mystère, c'est que parfois, un arbre meurt, mais son voisin résiste. Pour comprendre, les scientifiques ont creusé dans la forêt 60 fosses de 2 mètres de profondeur sur 1 mètre de large. Et ça leur a permis de trouver une première piste. Des Icopo, ingénieurs forestiers de la forêt de Chantilly.
On a espoir que dans le sol, il y ait de la matière organique, on ne sait pas si elle est vivante ou pas, associée à du minéral. Ce petit truc, quand il est là, on se demande s'il n'aide pas les arbres à survivre en contexte très difficile.
C'est comme une strate du sol bourrée de nutriments pour les arbres que les chercheurs appellent un horizon. Laurent Saint-André, directeur de recherche à l'INRAE.
C'est une piste qui nous intéresse beaucoup, qui nous semble prometteuse avec la génétique. Le problème, c'est que cet horizon-là, il n'existe pas partout. Et même quand il existe, il a des formes très variables, à des profondeurs très différentes.
Il va falloir faire des carottages dans les 6000 hectares de la forêt pour valider ou non cette piste. Et s'il prouve que c'est ce qui permet à certains arbres de survivre, les scientifiques pourront adapter les plantations en fonction du sol et peut-être sauver une partie de la forêt.
Reportage de Virginie Salmen. Le temps, Anissa Dadi, dans les forêts. Comme ailleurs, ouais. Comme dans les plaines, une journée digne du mois de juin.
Je pense qu'on est mieux en forêt d'ailleurs aujourd'hui parce qu'on respire peut-être un petit peu mieux. Il fait très chaud, les journées se suivent et se ressemblent et en ce moment, on aime bien ça puisque le soleil reste radieux. Encore aujourd'hui, il s'impose sur tout le pays. Au bord de la Méditerranée, comme hier, nous avons des nuages maritimes qui viendront de temps en temps masquer le soleil. Dans le Languedoc-Roussillon, toujours ce vent d'autant qui souffle jusqu'à Toulouse et jusqu'à 60 km/h. Alors les températures, elles sont un petit peu plus fraîches dans le sud avec seulement 17 degrés à Perpignan, 19 à Nice, Montpellier, Dunkerque, 21 degrés, c'est assez rare pour le noter, 21 degrés à Bastia et à Brest, 22 pour Lille, 23 à Nancy et Rouen, 24 pour Paris cet après-midi, 25 à Clermont-Ferrand, 26 pour Bordeaux et 27 à Mont-de-Marsan. Demain, ça va encore grimper et on risque de battre des records de température.
Merci beaucoup Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
On va essayer d'y voir clair sur cette crise sanitaire, cette épidémie qui n'en finit pas avec le professeur de santé publique au CHU de Lille, le professeur Philippe Amouyel, mon invité dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
En ligne avec nous, le professeur Philippe Amouyel. Bonjour, professeur de santé publique au CHU de Lille. Près de 5000 malades du Covid dans les services de réanimation. C'est un niveau qui va forcément continuer de monter dans les semaines à venir.
Mais a priori, oui, pour différentes raisons. La première, c'est que ce virus, nouveau variant britannique, est plus grave. Donc, plus de gens arrivent en réanimation, souvent plus jeunes, parce que les plus vulnérables ont pu commencer à être vaccinés. Et puis qu'apparemment, les gens restent un petit peu plus longtemps en réanimation. Donc, on commence à avoir une saturation qui va nécessiter, là encore, de pousser rapidement les murs.
C'est pour ça que, par rapport à la deuxième vague, on a plus de patients en soins intensifs, mais moins d'hospitalisation. C'est pour ça que les formes graves sont en proportion plus nombreuses.
Tout à fait. On a l'impression que le découplage qu'on observe entre le temps de « je suis à la maison, je rentre en hospitalisation, puis je m'aggrave » saute une case en passant directement en case réanimation, malheureusement.
Et vous l'avez dit, avec un profil de malade différent.
Oui, tout à fait. Les malades sont plus jeunes, aux alentours de 50, 60 ans, ont parfois moins de facteurs de risque. On retrouve toujours le facteur de risque surcharge pondérale et obésité qui est toujours très prévalent, beaucoup d'hommes. Mais on voit tout à fait des personnes sans facteurs de risque majeurs, sans cause a priori de morbidité importante.
Alors, toute la question maintenant, et on l'a posée dans le journal avec le service politique, Jean-Rémy Baudeau qui nous expliquait les débats et hésitations au sommet de l'État, les chiffres qui vont être scrutés ce soir, le Conseil de défense attendu demain. La question c'est, est-ce que c'est tenable, comme semble le croire encore l'exécutif, en espérant sur les progrès de la vaccination ?
Alors, les progrès de la vaccination, ce serait potentiellement tenable si on avait commencé à vacciner depuis le mois de janvier à 200 000 personnes par jour. On n'en est pas là encore. En effet, la vaccination va être notre porte de sortie, il faut s'y préparer. Mais là, on se trouve dans une phase intermédiaire qui va durer probablement 3, 4, 5, 6 semaines, pendant laquelle il va falloir mettre en place des mesures qui permettent de ralentir cette augmentation des patients en réanimation, tout en permettant de vacciner et en conservant des conditions de vie acceptables, parce que bien sûr les mesures doivent être acceptables pour la population, sinon elles n'ont pas de sens.
Que préconisez-vous, professeur Amouyal ? Est-ce qu'un confinement dur aurait encore du sens, ce qui reviendrait à enfermer des familles chez elles au moment où on commence à profiter des beaux jours ?
Non, le confinement comme on a connu en mars, on avait une espèce de sidération en mars, on ne connaissait pas le virus, on ne savait pas ce qu'il faisait, on n'avait pas d'équipement de protection, on n'avait pas de masque, on n'avait pas de liquide hydroalcoolique, donc on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. En revanche, on sait maintenant ce que fait ce virus, on sait par où il passe, donc la question va se poser beaucoup sur la responsabilisation par la diminution de la circulation du virus dans toutes les zones où il passe, c'est-à-dire en particulier les réunions privées, amicales, familiales, les week-ends.
Oui, mais alors ça, c'est justement une forme d'angle mort en France. Il y a des règles qui ont été édictées, popularisées dans des pays voisins, en Belgique notamment, en Allemagne. On a parlé de bulles sociales et de règles qui ont été, suivant les époques, plus ou moins respectées par les peuples concernés. Mais ces règles-là n'ont pratiquement pas été édictées en France. Est-ce qu'il faudrait le faire ? Est-ce qu'il faudrait passer par là ?
Alors, si, elles l'ont été. Rappelez-vous la période des fêtes de Noël.
Oui, pour Noël.
On craignait tous un effet Thanksgiving comme aux États-Unis, qu'on n'a pas eu parce qu'il y a eu une communication qui a été faite de manière claire par le gouvernement sur la restriction assise au repas, sur l'éloignement des personnes vulnérables, la poussée par beaucoup d'épidémiologistes, dont moi-même, de dire aux gens « allez-vous tester, ça vous fait une garantie supplémentaire ». Tout le monde sait que c'est pas un totem d'immunité, mais ça vous permettra de vous retirer le cas échéant où vous seriez positif. Donc on a réussi à faire quelque chose. Donc je crois beaucoup à cette solution. Je comptais beaucoup sur les autotests, là, qu'on n'arrive pas encore à voir dans le public, pour justement créer cette responsabilisation, plus à côté de mettre en place des mesures où, par exemple, on se donne les moyens de garder les écoles ouvertes. À ce prix-là, on peut essayer d'éviter un confinement qui soit trop massif. Ça sera difficile dans les villes ou dans les régions qui sont à plus de 500 ou 600 d'incidence pour 100 000 habitants, comme dans les Hauts-de-France ou comme dans la région parisienne. Mais on peut faire une frappe ciblée, organisée dans la France, mais il faut la faire vite.
À condition que le pouvoir se convertisse à un discours qui dise, en gros, aux citoyens, eh bien, écoutez, la suite dépend de vous, de vos comportements, et non pas simplement des mesures que nous, exécutifs ou gouvernement, nous pouvons prendre.
Oui, vous avez tout à fait raison, et c'est pas que à partir de maintenant, c'est depuis le début. Quand on a vu des phénomènes d'échappement, c'était plus des phénomènes d'échappement liés au comportement que liés au non-respect des mesures édictées, de grandes mesures de restriction. Si on regarde le deuxième confinement, celui de novembre, on s'aperçoit qu'il marche très très bien jusqu'au 1er décembre. 1er décembre, ça s'arrête, on passe sur un plateau, on ne fait plus baisser les chiffres, on reste à 10 000, on sort à 10 000 de confinement. Et ce que l'on pense aujourd'hui, c'est que c'est pas la ouverture des magasins, c'est simplement le fait que les comportements, probablement à l'approche de Noël, ont changé, qu'on a fait moins attention, qu'on s'est un peu laissé aller. Et à ce moment-là, le virus en profite pour passer, circuler et se transmettre.
Et pour les écoles, Philippe Amouyal, personne ne sait quel serait l'impact réel d'une fermeture des écoles. Je rappelle qu'une étude de l'Institut Pasteur avec Arnaud Fontanet estimait que l'école n'est pas un amplificateur de l'épidémie. Elle en serait plutôt une forme de reflet, quoi.
Oui, tout à fait. Moi, je suis pour un maintien des écoles ouvertes. Sous réserve qu'on s'en donne les moyens, parce qu'on va les laisser ouvertes, mais elles vont être sensibles à l'environnement. Si vous êtes dans une ville en Seine-Saint-Denis ou si vous êtes dans une ville dans le Finistère, ce sera pas le même impact sur l'école. L'école est, comme vous le dites fort justement, le reflet de ce qui se passe autour d'elle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre en place des protocoles qui soient respectés, mettre en place des protocoles dans les cantines. Là encore, les lieux de repas sont des éléments importants à l'entrée, à la sortie de l'école. Prévoir en particulier pour les plus grands, lycées, collèges, des enseignements distanciés par moitié. Et aussi, dès qu'on le peut et le plus tôt possible, vacciner les enseignants et le personnel des écoles pour faire une bulle qui nous permette de protéger les enfants de l'impact psychologique de ces différents confinements.
Et je reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce que c'est tenable? Est-ce que vous pouvez nous parler de vos collègues ou de votre environnement, puisque vous êtes au CHU de Lille, dans une région, les Hauts-de-France, qui est particulièrement touchée et impactée aujourd'hui?
Alors dans les Hauts-de-France, on a dépassé les 500 d'incidence et on est à 142% de taux d'occupation des lits de réanimation. Ouais. Ça n'a pas de sens, hein, passer au-dessus de 100%, mais voilà, ça veut dire qu'on est saturé. J'ai justement discuté pas plus tard que hier soir avec un des patrons de la réanimation. En effet, pour discuter essentiellement des profils des patients qu'ils avaient, hein, qui sont ceux qu'on voit malheureusement actuellement, et qui disaient, voilà, combien de temps ça va durer, combien de temps cette inflation? Ils peuvent encore tenir probablement 2 semaines en essayant d'armer de nouveaux lits, mais il y a un moment, la saturation fera que ça va être extrêmement difficile. De toute façon, c'est déjà difficile, et de toute façon, ils vont devoir faire des efforts et se mobiliser, mais il faut pas que ça dure trop longtemps si vraiment on veut continuer à apporter les meilleurs soins à toute la population.
Et ne pas créer des pertes de chance pour certains malades. La grande controverse, Philippe Amouyal, entre les scientifiques et le pouvoir tient, on l'a vu ces derniers jours, à la décision de ne pas confiner fin janvier. Emmanuel Macron répète qu'il a eu raison, que les modélisations se sont trompées, que la vague n'est pas arrivée en février. Il dit vrai?
Alors, à ma connaissance, parmi les épidémiologistes qui font des projections, qui sont écoutés, que ce soit celle de Pasteur Paris, celle de Victoria Colisa ou d'autres, ou les miennes, on n'a pas prévu de monter en février. On a toujours dit que c'était à partir de la moitié du mois de mars qu'on allait commencer à avoir des problèmes, pour une simple et bonne raison. C'est que c'est à ce moment-là que le virus britannique devient dominant dans toute la France et lui imprime une nouvelle dynamique à cette épidémie. Maintenant, passons. La question est, d'un côté, on fait des propositions, on fait des modèles pour faire en sorte qu'ils ne se produisent pas. Donc on donne des armes, des outils, des points de référence aux politiques qui, eux, décident, en fonction d'autres paramètres qui ne sont pas que sanitaires. À ce moment-là, c'est eux qui endossent la responsabilité et qui l'assument, hein, comme le fait notre président. Mais à côté de ça, sur le plan sanitaire, l'intérêt, c'est d'anticiper. Et si on avait pu anticiper 2, 3, 4 semaines des mesures, on serait peut-être pas à ce niveau actuel.
Merci beaucoup Philippe Amouyal, professeur de santé publique au CHU de Lille. Merci à vous.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis. Le 13h de Christophe Lamarre à suivre, puis La France bouge. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1. À demain.